BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Bonjour et bienvenue dans Tech & Co Business. Au sommaire, aujourd'hui, nous allons parler de souveraineté, notamment avec le patron de Scaleway, qui sera là pour nous parler du Health Data Hub, de ce consortium d'une trentaine d'entreprises, dont Scaleway, pour créer ces AI Gigafactories. C'est un grand projet européen, l'appel d'offres va arriver. Eh bien, il viendra nous parler de tout ça, on enchaînera. Tiens, il y a d'ailleurs un lien, puisque Scaleway est partenaire justement de ces données de santé. Eh bien, nous aurons un médecin, qui est à la fois médecin et patron de la gouvernance et de la stratégie IA, la gouvernance des données, la stratégie IA au CHU de Montpellier. Ils ont mis en place, vous allez voir, pas mal de choses autour de ces données pour accélérer, pour simplifier le métier des médecins. Il sera accompagné du patron de la plateforme Adeline, un tiers de confiance autour de ces données. Et puis, dernière partie de l'émission, décryptage de l'actualité IA avec nos débriefeurs. On reviendra sur ce qu'a dit le pape, on reviendra aussi, bien entendu, sur ces investissements colossaux annoncés lors de Choose France, 75 milliards en France. Voilà, restez avec nous, on est ensemble pendant une heure sur BFM Business.
Tech & Co Business, l'invité.
Allez, avec nous cette entreprise Scaleway qui est en train de monter, entreprise française, européenne et on l'espère un jour au niveau mondial. Avec nous Damien Lucas, directeur général de Scaleway. Bonjour Damien.
Bonjour Frédéric.
Merci d'être avec nous. On a beaucoup d'actualités dont il va falloir parler avec vous. Il y a le Health Data Hub, il y a cette alliance aussi, ce consortium d'une trentaine d'entreprises pour faire des IA Gigafactory. On parlera de quantique aussi parce que là aussi vous êtes investi avec Scaleway. Juste un mot. Cette semaine, on a SoftBank qui a annoncé un investissement important, hein, 75 milliards. Alors en deux tranches, il y aura 40 milliards première tranche qui va arriver notamment dans les Hauts-de-France pour autour des data centers. Quand on est soi-même opérateur de data center, comment on voit ça? Alors, de façon assez positive, mais c'est quoi votre première réflexion?
Donc nous, on est utilisateur de data center, donc des data centers, on en a besoin. Et il y en a trop peu, donc on accueille toutes les annonces avec beaucoup d'enthousiasme. Ça va être la possibilité pour la France et pour l'Europe de construire ces fameuses gigafactories dans lesquelles on va pouvoir faire l'IA de demain. On en a besoin. C'est le signe que la France est attractive pour construire des data centers.
Oui, ça y est, on nous situe bien sur la carte.
On nous situe sur la carte grâce à l'électricité française, grâce aux talents en France, grâce à tout l'écosystème autour de l'IA. Donc c'est une formidable nouvelle.
Ouais, c'est ce que disait, je voyais les gens de Schneider Electric qui me disaient il faut un politique qui a envie, un financeur, enfin un investisseur, puis derrière il faut avoir des clients qui sont prêts à y aller, et puis il faut un intégrateur aussi pour intégrer tout ça. Et quand on a les quatre réunis au bon moment, qui sont tous dans leur même échelle de temps, eh bien c'est là que ça marche. Alors on va parler avec vous, Scaleway. Il y a quelques jours, hein, c'est un consortium de 28 entreprises françaises et européennes pour créer ces AI Giga Factory. Alors expliquez-nous, il y a des gens, ceux que l'on connaît, Ardian Artefact, Bull Capgemini, UDF, Groupe IA, donc Orange, Scaleway. Alors racontez-nous un petit peu en quoi ça consiste là, ces AI Giga Factory.
L'idée, c'est très simple. L'idée, c'est de se mettre ensemble pour pouvoir atteindre une taille critique. On parle de gigafactory. La taille ultime, c'est donc le gigawatt.
Oui, c'est ça.
C'est ça, en tout cas, l'ambition du consortium. Et dans ce contexte-là, la Commission européenne a demandé, ou plutôt organise un appel d'offres.
Oui, parce que pour construire... l'instant, on en est à la réponse à l'appel d'offres.
Il y a eu un appel à manifestation d'intérêt l'année dernière. Maintenant, c'est l'appel d'offres qui devrait arriver maintenant d'une semaine à l'autre pour trouver des consortiums qui se lancent dans la construction de gigafactories. Mm-hmm. Quelques-unes en Europe, et je pense que c'est important de parler de l'échelle européenne, du fait de dire que c'est quelques-unes. Et donc, pour porter la candidature française d'une gigafactory française, on a rassemblé un certain nombre des grands leaders.
Parce que ça, quand vous dites français, c'est vrai que les Allemands y répondent aussi, les Britanniques...
Absolument.
Bon, j'élargis un peu l'Europe, mais les Britanniques y répondent aussi.
Alors, les Britanniques, je crois pas, parce que c'est organisé par la Commission européenne. Les Allemands, sûrement, les Nordiques, évidemment, l'Italie, l'Espagne, etc. L'objectif étant d'en faire quelques-unes de ces gigafactories. On n'en fera pas 27, ça c'est sûr. Et donc l'objectif, c'est évidemment d'en avoir une en France. Et donc on a été chercher les acteurs qui sont clés dans l'intelligence artificielle en France aujourd'hui.
Et là, c'est à la fois pour faire du calcul IA, c'est à la fois pour faire, pour cette puissance de calcul, du cloud autour de l'IA.
C'est vraiment centralisé sur l'intelligence artificielle. artificielle.
D'accord, ouais.
Les différents cas d'usage de l'intelligence artificielle, donc construire les modèles, ce qu'on appelle le training, les réentraîner, les affiner, et puis toute la partie inférence, savoir faire tourner les modèles,
requêtes que
ce qu'on utilise tous les jours quand on envoie des requêtes à nos agents préférés.
Aujourd'hui, donc, cet appel d'offres a été déposé. On en est où dans les échéances, là, la réponse, voilà, quand
on... On attend l'appel d'offres d'une semaine à l'autre avec l'objectif du coup d'une sélection avant la fin de l'année et d'un démarrage du projet tout début d'année prochaine et globalement être capable d'avoir de la puissance à proposer dès la fin de l'année 2027.
Et là c'est important qu'il y ait des politiques derrière, qu'il y ait des investisseurs, qu'il y ait tout cet acteur, parce qu'il faut que tout le monde avance d'un seul bloc.
Oui, et à tous les niveaux. Il faut être en mesure d'avoir des data centers de disponibles, hein, parce que dans ce contexte-là, pour avoir quelque chose qui tourne fin d'année 2027, il faut utiliser des projets de data centers qui sont déjà largement démarrés. Il faut par ailleurs s'assurer qu'on a EDF dans le consortium qui nous garantit l'énergie. Il nous faut les chipsets, l'accès aux différents chipsets en quantité. Il nous faut également le logiciel pour que ça soit utilisable. Et puis, il nous faut la capacité à opérer des milliers de GPU. Et ça, c'est ce qu'amène Scaleway dans le consortium, évidemment.
Alors, autre sujet qui nous intéresse pour Scaleway, c'est vous avez été retenu pour héberger la plateforme de données de santé. Là, alors, on l'appelle plus le Health Data Hub. Du coup, je crois qu'on va lui donner un autre nom parce que ça fait couler beaucoup d'encre. Hein, parce que ça avait été attribué à Microsoft Azure. Pour vous, c'est quoi ? C'est une victoire technologique, réglementaire, politique ? Comment vous l'analysez ? Ou est-ce que c'est un peu tout ça ?
Oui, effectivement, je pense que c'est important de ne pas se tromper de sujet. C'est une victoire politique. C'est-à-dire que d'un point de vue purement réglementaire, le réglementaire est là. Est-ce que c'est légal aujourd'hui de mettre des données de santé pseudonymisées sur un acteur comme Azure qui a la certification HDS, habilitation à héberger des données de santé. Oui. Donc le sujet, il n'est pas légal.
D'accord.
Le sujet, il est vraiment du côté de la préférence européenne et de se dire qu'est-ce qu'on souhaite politiquement parlant, comment on souhaite protéger les données des citoyens et comment est-ce que la commande de l'État français est exemplaire en la matière, puisque ça, je pense que c'est un vrai message extrêmement fort dans le domaine.
Et ça marque vraiment, elle marque le début d'un mouvement là, parce que c'est vrai qu'on parle de souveraineté, on parle un peu plus de souveraineté numérique, bon, avec tout ce qu'on peut mettre derrière, d'indépendance technologique, etc., d'autonomie économique, etc. On en parle un peu plus depuis 18 mois, bon, on voit avec ce qui se passe aux États-Unis, enfin avec Donald Trump on se dit un jour, ça pourrait ne plus être totalement nos alliés. Et là, vous pensez que là, vraiment, le fait qu'il y ait cette décision, ça marque c'est un point différent. Enfin, c'est un début de quelque chose, là.
C'est un début et c'est un point parmi N. C'est-à-dire qu'on en voit des décisions comme ça. On en voit successivement. On voit peut-être très emblématique la ville de Copenhague qui a décidé de tout arrêter chez les hyperscalers américains pour basculer chez Scaleway il y a quelques mois de ça. On voit l'Union européenne qui fait un appel d'offres pour sélectionner un cloud provider et qui met dans l'appel d'offres des critères de souveraineté qui sélectionnent à la fin uniquement des acteurs européens.
Donc
on voit finalement
cette petite pierre semée pendant des années.
C'est une vraie préférence européenne qui commence à s'inscrire dans les politiques des différents États membres et de la Commission européenne, ce qui va dans le bon sens par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui, notamment dans le domaine du cloud.
Est-ce que ça veut dire, Damien Lucas, pour vous chez Scaleway, parce qu'il faut des capacités de calcul massives, des capacités d'hébergement, comment vous comptez concilier à la fois donc cette souveraineté dont on vient de parler, la sécurité des données médicales, l'accès à la puissance de calcul. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va nécessiter beaucoup d'investissements supplémentaires ?
Ça nécessite beaucoup d'investissements. Aucun doute sur le fait que ça nécessite beaucoup d'investissements. Hein, le chiffre qu'on donne dans le domaine du cloud, c'est 1 euro de croissance, c'est 3 euros d'investissement, 3 euros de capex. Et donc, vous imaginez bien que si on veut rétablir l'état aujourd'hui du marché, le marché du cloud en Europe, c'est 80 milliards.
Oui.
Très largement dominé par les acteurs américains.
Au moins deux tiers du
marché, plutôt plus proche des trois quarts du marché. Si on veut corriger, donc admettons, ne serait-ce que d'un quart pour rééquilibrer, un quart de 80 milliards, ça fait 20 milliards.
Gagner 10% déjà, on gagne.
Et donc, c'est des investissements colossaux. Donc, la question, c'est quels sont les acteurs européens qui peuvent se permettre d'investir des milliards dans la croissance du cloud. Et là, on a la chance en Europe d'avoir quelques acteurs idéalement positionnés parce que adossés à des grands groupes, comme c'est le cas pour Scaleway avec Iliad, qui a la possibilité, et peut-être certains, notamment en Allemagne aussi, qui ont la possibilité d'investir des milliards qui sont nécessaires pour corriger l'État et revenir à, voilà, un équilibre un peu plus sain de ce point de vue-là.
Acteur crédible et pérenne. Damien Lucas, il y a aussi le quantique, hein, puisque là aussi, c'est... Alors là, on est dans l'étape, mais qui n'est pas si lointaine. Hein, on ne se projette pas à 2050. Hein, on commence déjà à parler de chiffrement post-quantique. Et là aussi, Scaleway est en train de pousser ses pions. Hein.
C'est important. C'est très important. C'est la prochaine révolution. Après l'IA, c'est probablement le quantique. Ça arrive avec un horizon de temps qu'on ne maîtrise pas bien. Mais effectivement, ce n'est pas 50 ans. L'horizon de temps, c'est peut-être 3, c'est peut-être 5, c'est peut-être 10 ans. Mais c'est un horizon de temps relativement restreint. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est de proposer sur notre plateforme cloud l'accès aux différentes technologies quantiques. Et je dis bien aux différentes technologies quantiques parce qu'il y en a plusieurs.
Oui, oui.
Et donc,
on
leur proposer.
Ouais.
C'est ça. On leur proposer les différents accès pour pouvoir se familiariser. Pour que tous nos clients commencent à se familiariser avec l'algorithmique quantique qui sera nécessaire parce que je reste persuadé que dans quelques années, il faudra faire quelques workflows sur de l'algorithmique quantique, là où c'est plus efficace, et puis d'autres sur de l'algorithmique binaire, comme on a l'habitude de le faire. Et mais donc, le plus tôt on l'adoptera, le plus on sera efficace.
Et donc là, il faut être prêt à tout ça. Eh bien, Damien Lucas, directeur général de Scaleway, merci d'être venu nous parler de tout ça.
Merci.
Health Data Hub, ce consortium, voilà, pour faire ces AI Gigafactory, le quantique aussi. Et puis tiens, on va nos invités suivants, ils sont, je crois qu'ils travaillent pas mal avec vous, c'est le CHU de Montpellier, avec le Adeline, là.
Exactement.
Ils ont un partenariat.
Ils travaillent très fortement ensemble.
Et ben voilà, c'est le hasard qui fait bien les choses. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Allez, justement, on va parler données de santé dans un instant avec nos invités suivants.
Tech & Co Business, les invités.
Allez, on continue notre parcours Tech & Co Business. On va parler IA, données de santé. Tiens, on est en parlait à l'instant avec Damien Lucas de Scaleway. Bien oui, ben tiens, un partenaire de Scaleway. C'est vraiment le hasard qui a fait ça du CHU de Montpellier. Avec nous, le professeur David Morquin. Bonjour.
Bonjour.
David, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin infectiologue et directeur médical gouvernance des données et stratégie IA au sein du CHU de Montpellier. Et avec nous également Paul Rinaudot. Bonjour Paul.
Bonjour.
Vous êtes fondateur et directeur général d'Adeline. Adeline, c'est un tiers de confiance autour des données de santé. Et donc, c'est une plateforme pour aider justement les professionnels de santé à gérer leurs données en sécurité, avec de la gouvernance et tout ça. Alors, démarrer avec vous, David. Donc, le CHU de Montpellier présente Alliance Santé IA. C'est un projet, alors je crois que c'est un projet unique en Europe. Hein, j'essaie de trouver...
Tout à fait. C'est un projet d'approche systémique pour la transformation de l'hôpital, on va dire... AI et data first.
D'accord. Et alors, ça va quand vous êtes médecin, alors qu'est-ce que ça va changer dans votre métier ?
Alors, ça va changer beaucoup de choses parce que l'intégration en fait actuellement, enfin l'intelligence artificielle, la question c'est pas de savoir si c'est performant pour apporter de la valeur sur les différentes pratiques de l'hôpital. La question c'est comment on l'intègre, comment on le professionnalise, comment on le sécurise avec comment on construit avec tous nos partenaires quelque chose qui crée de la valeur et au niveau intra-hospitalier et qui va permettre de garantir l'équité d'accès aux soins.
Ça veut dire que si on prend un exemple très concret, ça peut être quoi ?
Alors, très concret, l'utilisation de l'IA générative en interne de l'hôpital, ça nous permet de gérer tous les flux documentaires, toute la catégorisation de la donnée, toute l'orchestration des flux d'informations, la requalification des données, leur consolidation, la vérification des erreurs.
C'est-à-dire, par exemple, un médecin, pour savoir s'il a un patient devant lui, s'il a bien fait tous les examens, par exemple, il va poser sa question.
Vous imaginez, quand vous utilisez ChatGPT, que vous puissiez l'utiliser de façon sécurisée, en interne, avec les données de vos patients et d'une façon professionnelle. Donc, fait, le nombre d'usages, il est extrêmement important.
Et alors, que vient faire Adeline, là-dedans, Paul Rinaudot, que vient faire Adeline ? Donc, c'est cette plateforme qui va gérer un peu toutes ces données, qui sont évidemment des données sensibles.
Le rôle d'Adeline, effectivement, il se situe autour de la mise en qualité des données, de la mise à disposition des données. Mais quelque chose qui nous a beaucoup intéressé, et c'est ce qui fait aussi l'identité d'Adeline depuis la création, c'est que ça doit être orienté vers les soignants. Ça doit être orienté vers les chercheurs. Il faut que l'IA soit un vrai outil pour ces acteurs-là. Et nous, on se positionne comme tiers de confiance pour nous assurer que les données qui vont être ingérées, qui vont être inférées, comme le disait très bien tout à l'heure, Monsieur Lucas, soient de bonne qualité pour s'assurer qu'il y ait moins de biais possible et que la qualité du rendu soit au niveau attendu par les soignants, par les chercheurs.
Parce que c'est ça qui manque aujourd'hui. Alors, au-delà de la qualité des données métiers, mais c'est souvent la qualité, sur une personne. Alors, on n'a pas le bon prénom, ou le prénom est écrit différemment. Enfin, c'est déjà, il y a tout ça. À la base, il y a ça.
Alors, ça, on va dire que c'est le point de base. C'est la standardisation des données, c'est leur complétude.
La bonne date de naissance,
Exactement.
C'est des choses toutes bêtes, mais bon, ça peut.
Mais il faut commencer par là. Ouais. Mais nous, on va plus loin. On estime qu'une donnée de qualité, c'est une donnée qui est contextualisée. Et pour qu'elle soit contextualisée, elle doit être adossée aux soignants, aux chercheurs, qui, eux, ont ce contexte-là. C'est pour ça qu'on a une approche assez unique, c'est qu'on laisse les données là où elles sont générées. Oui. Elles restent entre les mains des hôpitaux, entre les mains des chercheurs, et c'est ce qui fait ce projet assez unique, c'est qu'on aide localement les acteurs pour qu'ils gardent la connaissance et le maintien et la sécurité des données localement.
Parce que c'est ça, hein, souvent, ce qu'on a entendu dans tous ces projets, le projet du dossier médical partagé, et puis on a vu peu à peu la crainte des patients que nous sommes de devoir nous donner ce... Avant, je ne dis pas qu'on s'en fichait un peu, mais on ne faisait pas trop attention. Puis aujourd'hui, on se dit, ça peut être embêtant qu'elle s'en aille quelque part.
Clairement, c'est au cœur du projet, c'est-à-dire de pouvoir allier les deux. C'est-à-dire la performance de l'utilisation de grands modèles de langage et de l'algorithme de plus en plus complexe, tout en sécurisant complètement les données, en étant RGPD compatible, en étant RIA Act compatible, et avec nos valeurs de l'hôpital en général.
Et vous, j'imagine que l'une des promesses de ce projet, c'est aussi de réduire la charge administrative, hein, parce que quand on entend aujourd'hui, et certainement vous le vivez au quotidien, ce métier en tension, hein, à tous les niveaux de cette profession, dans les hôpitaux, dans les CHU, se dire souvent, il faut, une fois qu'on s'est occupé des patients, il faut encore aller remplir pas mal de papiers, et là le but c'est de réduire tout ça aussi.
Tout à fait. En fait, on apporte l'IA comme une couche opérationnelle de traitement de l'information qui peut non seulement faciliter la saisie pour tous les acteurs, faciliter leur coordination, faciliter la compréhension pour les patients, et va même jusqu'à permettre de faire émerger la médecine préventive, dont on parle beaucoup, mais qui est extrêmement difficile à intégrer dans nos pratiques, justement en évaluant au quotidien des algorithmes de plus en plus compliqués, de plus en plus complexes, mais efficaces pour la prise en charge de nos patients.
Parce que c'est ça, Paul Rinaudot, sur ces données-là. Alors, c'est bien d'avoir, de suivre ces données pour un patient, pour savoir, pour le suivre au plus près, mais aussi de pouvoir, de façon anonyme aussi, récupérer une masse de données. Et vous parliez des chercheurs tout à l'heure, là aussi, c'est pouvoir travailler sur des données, faire des recherches. On sait que là aussi, l'IA peut être un apport considérable, mais encore faut-il qu'on ait toutes ces données que l'on n'a pas toujours.
Absolument, c'est un des principaux challenges aujourd'hui de la recherche, et peu importe les typologies de recherche qu'on veut mener, c'est l'accès aux données, encore une fois, l'accès aux données de qualité. Et c'est un vrai enjeu pour les hôpitaux, pour les centres de recherche, de gagner aussi en compétitivité scientifique pour pouvoir se réapproprier ses propres données, pour mener des recherches, pour accélérer les essais cliniques. Souvent, ils doivent être multicentriques. Donc, comment on arrive à répliquer ce modèle au sein de différents hôpitaux, connectés entre eux, qui vont permettre justement cette accélération d'abord pour les acteurs publics et demain, avec tout le cadre réglementaire, avec tous les aspects de protection des données, la propriété des données qui doit rester au niveau des hôpitaux, auprès des acteurs privés, nationaux, européens, qui en ont besoin pour accélérer l'innovation et pour la ramener le plus rapidement possible dans le soin. Et cette complétude qu'on essaye de mener au sein de la
Ligue. Parce que justement, quand on parlait du Health Data Hub, il y a bien ce côté hub. Hein. Là, on voit l'hôpital, donc avec son propre fonctionnement. Mais derrière, c'est des médecins de ville, ça peut être des cliniques, des laboratoires. Enfin, il y a tout un écosystème. Et c'est ça qui est compliqué aussi à faire travailler ensemble, que tout le monde parle le même langage, et les mêmes données.
Oui, et alors nous, il y a deux aspects importants dedans. Je pense que des acteurs comme le Health Data Hub ou la plateforme de données de santé maintenant, qui est ce rôle fédérateur extrêmement important, parce que certaines typologies de données qui doivent être agrégées, comme les données de l'assurance maladie, mais il y a d'autres typologies de données où ce sont les soignants qui doivent en être le garant, soit être les médecins, et il faut les laisser localement. Et comment on arrive à tisser un écosystème de collaboration public-privé, comme on essaye de le montrer dans le cadre de l'Alliance, pour fédérer les acteurs et s'assurer que lorsqu'on a besoin d'avoir accès à données, aux données, eh ben elles sont de bonne qualité, au bon endroit et gérées par les bonnes personnes.
Alors, je crois que le coût du projet, c'est aux alentours de 18 millions d'euros. Hein, c'est ça, j'avais vu dans le communiqué de presse. Comment ensuite, David Morquin, vous allez pouvoir dire, bah, tiens, enfin, ces millions sont utilisés à bon escient, mais voilà, quels indicateurs vous mettez en place pour savoir que voilà, bah, les médecins utilisent bien, enfin, que tout le personnel soignant utilise bien et qu'il en trouve des bénéfices?
Alors, on a plusieurs produits, des produits qui sont centrés plutôt sur l'assistance au quotidien dans les tâches, des produits qui sont plutôt sur la formation, d'autres qui sont plutôt sur l'accélération de la recherche, ou encore sur la conduite du dialogue social, ou encore sur le fait de pouvoir piloter correctement l'hôpital. Et en fait, chacun de ces produits a certes un socle de données et de services IA mutualisés, mais ses propres indicateurs qu'on va surveiller. L'objectif est de montrer que non seulement c'est faisable, mais que c'est complètement réplicable.
Oui, et réplicable, justement, ça veut dire que ça pourrait être appliqué à d'autres...
Exactement.
Le but, c'est ça, de dire ça marche chez nous, les CHU se ressemblent quand même, alors peut-être certains sont plus gros ou d'autres plus petits, mais globalement, les CHU se ressemblent, et donc on peut répliquer un peu...
Les CHU et pas que, c'est-à-dire tous les établissements de santé, potentiellement, parce que la réutilisation des données secondaires, c'est aussi les petits établissements et finalement l'ensemble de l'écosystème, pour avoir la capacité de valider sur un territoire que tout ce qu'on va apporter comme algorithme, comme capacité à prédire pour une population donnée, soit le plus juste possible.
Et là, c'est en s'appuyant sur la plateforme Adeline qui peut avoir ce côté fédérateur entre ces...
c'est un des objectifs où on crée cette plateforme distribuée qui permet à chacun de pouvoir construire ses propres innovations, créer ses propres gestions de données, mais aussi bénéficier de suite de l'écosystème. Mais je pense que au-delà de la plateforme Adeline, la capacité de le faire, je pense que ça doit être des projets qui doivent être incarnés. Ouais. Et là, je pense que David en est un bon exemple. C'est un médecin, et donc il parle aux médecins au CHU de Montpellier.
Médecin, il est à la fois patron de la gouvernance.
Voilà, il y a une vraie cohérence, et il y a une direction générale avec Anne Ferrer qui porte et qui incarne le projet et qui le porte dans l'établissement. Et je pense que nous, ça nous a énormément motivés, rassurés qu'il y ait cette incarnation pour transformer l'hôpital. C'est pas Adeline qui va le faire, c'est pas une plateforme, on est là comme facilitateur. Mm-hmm. Et je pense que les autres CHU, les autres centres hospitaliers qui emboîtent le pas, je pense que c'est ce changement systémique qui est possible, mais ça doit être porté par les hôpitaux. Et je pense que c'est un très bel exemple dans le cadre d'Alliance Santé hier.
Et par les hôpitaux et par les métiers, hein, c'est ce qu'on dit souvent. C'est-à-dire, évidemment, vous avez un DSI, un patron de système d'information, parce qu'il faut faire fonctionner tout ça, mais il faut que ce soit incarné par des gens de la profession, alors en collaboration étroite, bien entendu.
Collaboration étroite, c'est vraiment le terme, parce qu'en fait, on est obligé de faire collaborer des mondes qui ne se connaissaient pas forcément. C'était pas évident d'avoir des MLOps au sein de l'hôpital qui soient capables de discuter avec des acteurs métiers. Et donc, en fait, on a toute une catégorie de métiers qu'on doit hybrider pour permettre justement l'émergence d'une nouvelle forme de médecine très centrée sur l'exploitation de la donnée et l'IA.
Pour vous, aujourd'hui, justement, vous pensez qu'au niveau de l'enseignement, alors évidemment, on sait qu'aujourd'hui, on va continuer à apprendre tout au long de sa vie, puis c'est le cas dans la médecine aussi, vous avez régulièrement des formations, etc. Mais il faut intégrer beaucoup plus tôt dans l'enseignement, notamment en santé.
Alors, non seulement il faut intégrer, mais il faut surtout arriver à passer sur l'évaluation des compétences plus que les connaissances seules. Et pour ça, ce qui est très intéressant, c'est que l'utilisation de l'IA en elle-même peut être un vecteur qui nous permet justement de driver cette évaluation des compétences. C'est les travaux chez nous de Kevin Yoi qui sont très marqués sur une plateforme justement d'apprentissage par simulation sur l'IA. C'est un enjeu majeur de savoir quelles compétences humaines on doit développer pour le médecin de demain.
On voit, c'est ma dernière question, Paul Rinaudot. On avait Damien Lucas, donc patron de Scaleway à l'instant, avec qui vous travaillez, enfin qui de CHI de Montpellier travaille. On est en train, enfin, de faire cette filière souveraine, numérique, de santé en France.
On va dans la bonne direction. En fait, il y a tout un écosystème, comme le disait M. Lucas, politique, qui incite à aller dans cette direction. Ce projet a été financé par le SGPI avec BPI France et donc qui montre un engouement pour la volonté de créer cet écosystème souverain. Je pense que ça passe aussi par la compréhension de chaque acteur, de la capacité de collaborer avec l'autre monde. C'est-à-dire comment on arrive demain à créer un système public et privé qui arrive à, au-delà de cohabiter, à générer de la valeur ensemble parce qu'on respecte les prérogatives de l'autre. Comment une entreprise privée arrive à comprendre que non, on doit pas nous avoir accès aux données? Comment on sait, comment on construit des projets dans lesquels le soin, le patient, les soignants, les chercheurs sont au cœur? Et comment on arrive à trouver de nouveaux modèles économiques qui nous permettent de nous financer parce qu'on arrive à construire des actifs ensemble? Et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on veut s'inscrire. Il y a beaucoup d'écueils à surpasser, oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a l'écosystème qui le permet.
Oui, et puis je pense aussi sortir un peu du système d'information, parce que c'est là aussi, hein, quand des informaticiens parlaient à des informaticiens, voilà, ça restait...
Tout en capitalisant sur beaucoup d'investissements de l'État, parce qu'on a quand même le HDH, on a des supercalculateurs, on a il y a beaucoup de choses qui existent, et en fait, les urbaniser et les rendre compatibles avec une circulation et un usage, c'est un enjeu majeur.
Eh bien, merci d'être venu nous parler tous à Paul Rinaudot, fondateur et directeur général d'Adeline, et David Morquin, professeur, médecin, infectiologue, directeur médical, gouvernance des données stratégie IA, donc à la fois cette casquette médecin et cette autre sur la gouvernance des données stratégie IA. Et oui, c'est ça, hein, on en parle depuis tellement d'années, ce lien entre métier et numérique, donc au CHU de Montpellier. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de tout ça, ce sont des sujets passionnants. On continue notre émission Décryptage IA tout de suite avec nos experts.
Merci beaucoup.
Merci, oui.
BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Allez, c'est parti, notre décryptage de l'IA. Il y a de l'ambiance sur le plateau. Je peux vous dire avec nos débriefeurs que vous connaissez maintenant, Vincent Champin. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, président de l'Observatoire du long terme. Et je le redis parce que c'est vraiment un ouvrage qui est passionnant, hein, sur la productivité. On avait fait une émission là-dessus, vous pourrez la retrouver en replay. Et en allant sur l'Observatoire du long terme, vous aurez ce manuel, c'est un livre, voilà, tout simplement. Et patron du digital chez Framatome. À tes côtés, Emmanuel Villon. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Frédéric.
Bienvenue, qui après avoir une traversée de l'Atlantique, des vols en avion un peu... Et aujourd'hui, vice-président ingénierie et d'OFIA, Generix, en deux mots.
Oui, alors Generix, c'est un éditeur SaaS d'origine française qui s'internationalise et qui aide les grandes entreprises à piloter leur chaîne logistique de l'entrepôt jusqu'à la facture. Voilà, on gère à peu près 800 millions de factures, 600 millions de palettes. Voilà, donc on a 3000 clients, on est présent dans 60 pays.
Et en pleine transformation.
Dans l'IA.
Avec nous également Eric Campagny. Bonjour Eric.
Bonjour Frédéric.
Merci d'être avec nous, associé chez Alixio Group. Et Stéphane Roder, président de AI Builders.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Frédéric.
Merci à tous les quatre d'être là. C'était cette semaine, SoftBank, c'est 75 milliards d'investissements. Tout ça promis à l'occasion de Choose France. Alors il y aura deux tranches, hein, une première de 40, puis une autre qui viendra plus tard. Des data centers plutôt dans les Hauts-de-France, parce que là le terrain c'est à peu près du côté du port de Dunkerque. On est en train de jouer dans la cour des grands, ça y est Vincent?
Ah bah oui, bah d'abord il faut comprendre ce que c'est SoftBank. Hein. SoftBank c'est le plus gros fonds de venture technologique du monde, 100 milliards. Donc dans les 20 premiers, il y a 3 Chinois, 16 Américains et un Japonais.
Oui.
Premier point. Alors, ils ont investi dans OpenAI, ils ont investi dans Alibaba.
On l'avait vu dans le
bureau. Ils ont racheté les robots d'ABB. Ouais. Ils ont acheté Aldebaran, là. C'est un peu moins bien passé. Et ils avaient aussi fait WeWork. Et alors, le deuxième sujet, c'est que ça traduit aussi la reconnaissance des avantages français, et la mobilisation d'EDF, hein, pour offrir un foncier de qualité avec le raccordement clé en main, puisque c'est un appel à manifestation d'intérêt fait par EDF.
Oui.
Et aujourd'hui, SoftBank est ce qu'on appelle le preferred bidder. Donc, c'est avec celui avec lequel EDF va travailler.
Et j'ai rencontré Jean de Schneider qui me disait en plus on a quelqu'un pour coordonner tout ça, notamment sur la partie énergie, donc un Schneider, un EDF qui a envie d'y aller, un politique qui veut y aller, puis là un investisseur derrière. Voilà, les planètes s'alignent là tout d'un coup.
C'est un peu la consécration aussi
du Choose France.
Ouais, voilà, la preuve que le salon Choose France qui s'ouvre cette semaine semble fonctionner bien, les montants augmentent d'année en année.
Bah, ça vient aussi de ce voyage d'Emmanuel Macron, enfin pas que là, mais où il avait enclenché pas mal de choses, et là il a dit allant au Japon il y a quelques semaines, en disant bon allez maintenant faut qu'on concrétise un peu.
Et puis toutes les chiffres montrent que la France devient le pays le plus attractif en Europe sur tout ce qui est technologie au sens large, mais bien entendu intelligence artificielle au premier lieu. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi je trouve que c'est plutôt un ensemble d'ondes positives.
Ah oui, on est situé sur la carte là, de l'IA.
Oui, c'est une bonne nouvelle. Maintenant il faut trois choses, hein, pour que ça fonctionne véritablement autour de l'IA. Il faut évidemment de l'infra, il faut de la qualité des modèles et des usages. Et sur l'infra, on est en train de démontrer qu'effectivement, même si...
On n'a pas encore les processeurs, mais voilà.
L'attractivité de la France est un peu en baisse. Mm-hmm. Effectivement, qu'on devient un acteur avec une équation qui intéresse un acteur. Alors, tu disais, un fonds, effectivement, d'investissement, c'est devenu aussi un vrai acteur industriel qui cherche, sauf donc, à maîtriser toute la chaîne qui permet d'avoir des autoroutes de calcul sur lesquelles les agents IA vont pouvoir se développer.
Oui, puis je reviens sur mon entretien parce que j'ai vu des gens de Schneider qui sont partie prenante de ce projet sur la France, qui disaient, oui, dans les équipes de SoftBank, il y a des designers, des concepteurs d'architecture énergétique,
hyper pointu,
et ça travaille avec évidemment les Nvidia et tout ça, parce qu'il y a tous ces GPU à optimiser. Stéphane, pour les entreprises, c'est important justement de voir ce...
C'est très important, parce que d'abord, il faut avoir des processeurs et des infrastructures sur le sol français. D'autre part, plus globalement, on est en train de construire une filière au sens large, qui va être créateur d'emplois. Là, on est dans la partie très amont de la filière. Mmh. Derrière, il faut que ça suive. Il faut qu'on embarque les processeurs, le soft. On a une opportunité extraordinaire aujourd'hui en ayant cette capacité d'avoir de l'énergie décarbonée, du foncier et surtout Schneider qui est français encore une fois. Et
ils vont faire des modules, ce que j'ai compris, c'est qu'ils vont faire des modules, ils vont préfabriquer des modules dans lesquels ils mettront tout ce qui est basse tension, moyenne tension, onduleur, c'est la taille d'un conteneur et puis tout comme ça. C'est quand même un peu plus complexe que ça, ils pousseront ces conteneurs dans ces data centers.
Il y a un vrai enjeu aussi de l'IA at edge finalement. Est-ce qu'on va toujours acheter de l'IA, on va en reparler après, chez des grands éditeurs de modèles qui vont avoir peut-être une courbe ascendante de prix, ou est-ce qu'on va vouloir avoir nos modèles, non pas on-premise, mais dans notre propre cloud, pour le coup situé en France, avec une stack française que l'on maîtrise bien, peut-être mieux que ce qu'on peut faire en déléguant une partie à des acteurs américains qui a des problèmes de maintenance au cas où. Pour le coup, ça peut être très intéressant pour les Français.
Et c'est intéressant pour les Français, d'autant plus... alors, je ne sais pas si tu es allé là-bas au Mistral AI Now Summit, Vincent. C'était il y a quelques jours, là. Donc, Mistral a fait son grand... comme font beaucoup d'acteurs, aujourd'hui, ce n'est pas la première à le faire, mais pour une entreprise qui n'existait pas il y a 3 ans, réunir au Carrousel du Livre, au Carrousel du Louvre, près de 2000 personnes, Patrick Pouyanné, le patron de Total, Guillaume Faury, le patron d'Airbus, il y a eu le grand patron de l'IT de BMW, il y a eu beaucoup d'industriels, il y a plein de gens d'ASML aussi. On est en train de compter autour de
tout. On voit que ça bouge. C'est vrai que ce genre de keynote, on a plutôt l'habitude de les voir aux États-Unis.
Oui.
Là, donc c'est bien que ça arrive en France. Je pense que Arthur Mensch a fait un bon exercice, à la fois un peu pédagogique, on en parlait à l'Assemblée, et puis aussi là de montrer un peu la direction dans laquelle il va, qui est un peu de verticaliser, et puis d'essayer d'attaquer par les verticaux pour pas être en combat frontal par rapport aux gros offreurs de modèles, ce qui est assez smart pour Mistral.
Et d'ailleurs, ce que je trouvais, c'est ça qui était intéressant. On sortait de cette conférence, de la matinée, on a compris. La partie LLM, la partie studio, la partie data center qui va encore gonfler. Le fait que les ingénieurs de Mistral viennent dans les entreprises, alors après, ils travaillent aussi avec des intégrateurs. Le fait qu'ils ciblent beaucoup les industriels. Maintenant, il faut passer à l'échelle, je pense que c'est ça le plus compliqué.
Ouais, puis l'avantage de l'industrie, c'est qu'il y a, en fait, c'est des univers qui ont chacun une taille qui est modeste par rapport aux milliards d'utilisateurs du général. Donc, c'est comprendre que sur le marché à 1 milliard de personnes, ça va être dur face aux Chinois et aux Américains. En revanche, dans tous les verticaux sur lesquels, d'ailleurs, l'industrie, c'est le domaine dans lequel l'Europe a des bonnes positions, on parlait de BMW et d'Airbus, c'est un bon endroit. C'est vrai que pour le moment, on voit les grands acteurs, ils sont un peu moins. C'est un peu le pari qu'avait fait G à l'époque, en disant les gros acteurs du cloud sont sur le cloud, nous on va se focaliser sur le digital industriel.
D'accord. Stéphane, oh, tu vois justement ce Mistral, tu es allé ou pas?
Non.
Bon.
Non, Mistral, c'est une excellente opportunité. Déjà, on a un acteur qui se comporte comme un acteur américain, qui produit des modèles du même niveau. Pour le coup, si derrière, ils mettent en œuvre la même gamme de produits, et aujourd'hui, en entreprise, on attend beaucoup de produits, en fait, de plateformes qui permettent de faire du self-AI, il faut absolument que Mistral garde, en fait, ce tempo et soit dans le tempo en fait des entreprises américaines en termes de sortie de oui. produits.
Et puis avec
non ce... pas de modèle, ouais. mais de produits.
Et puis, ouais, et puis avec ce fagnon souveraineté, hein, qui est, moi beaucoup d'industriels présents qui j'en ai parlé, c'est ça qui agitait aussi.
Oui, et ce qui va aussi référence aux différents événements qu'on a aux États-Unis. D'habitude, c'est très innovation technologique. Il n'y a pas tellement eu d'annonces là. Mm-hmm. Par contre, j'ai trouvé intéressant la position d'un Arthur Mensch, qui est, si je vais faire un parallèle, et on c'est plus le Bourget de l'IA qu'on a vu que le CES.
Oui.
Et pourquoi ? Parce qu'on est vraiment dans une logique de filière industrielle, de positionnement sur la souveraineté, de positionnement aussi sur l'indépendance des différentes industries qu'on avait autour de la place, et d'orchestrer, en tout cas c'est ce qu'il essaie de faire, l'ensemble des acteurs, pour montrer que l'Europe peut être un acteur d'IA sur cette partie industrielle, et ça c'est vraiment intéressant.
Oui, alors donc moi j'y étais pas malheureusement, parce que j'étais encore... à la fin de mon aventure transatlantique. Mais ce que j'ai noté quand même, moi, il y a un truc que j'ai noté et que
j'allais faire un jeu de mots avec le Mistral, mais je m'en garde.
Ouais, on pourra en faire plein, des Mistral avec les containers aussi, tu peux en faire, mais c'est un autre sujet. En fait, Arthur, il a exprimé le fait que Mistral s'intéressait à construire ses propres puces. Et je trouve ça intéressant aussi dans une logique de maîtriser l'intégralité de la chaîne de valeur. Je ne sais pas ce qui va en sortir concrètement, et peut-être que ça va prendre un peu de temps, mais il y a quand même une forme de crédibilité là-dessus, notamment du fait du partenariat avec ASML. Je vois ça d'un bon angle. Maintenant, c'est quand même pas la même chose qu'un Google Next, en fait. Alors, tu citais le CES, effectivement, on est plus sur un Google Next qu'un Google I.O., pour reprendre aussi des images, je suis d'accord, hein, le Bourget de l'IA. Mais Google Next, c'est quand même 5 fois ou 10 fois ou 20 fois plus de personnes qui viennent.
Ah, mais là, ils existent depuis 3 ans.
Exactement. Oui, mais Anthropique aussi. Donc, je pense que l'un des prochains défis pour cet événement, c'est un, de faire en sorte qu'il y en ait un l'année prochaine.
A priori, ils en devront faire un en septembre aux États-Unis. Alors, je ne sais pas si c'est côte Est ou côte Ouest.
Moi, le deuxième défi, c'est d'internationaliser aussi l'audience. Il y avait des gens qui étaient... Dans les speakers, il y avait des gens internationaux.
Oui, il y avait quelqu'un de Singapour, il y avait BMW, voilà. C'était Allemagne.
Exactement. En revanche, dans les personnes qui étaient présentes, je pense que c'était assez franco-français.
Oui. Moi, quand j'entendais parler anglais, c'était les gens d'ASML. Enfin, les 5-6 fois, j'entendais.
Oui,
c'est marrant. Je dis, vous venez d'où, machin.
Mais c'est un défi, parce que l'enjeu, c'est de créer un champion européen.
Je voudrais, avant qu'on reparle du pape, parce qu'on va parler du pape dans cette émission, je voudrais qu'on revienne juste à l'instant. Je ne sais plus qui avait mis le sujet sur l'augmentation des coûts d'inférence.
Ah oui, c'est moi qui en avais parlé.
C'était toi qui en avais parlé. Et on disait donc c'est des coûts d'entraînement les plus chers. Et là, on dit, oui. Parce que justement, pourquoi je fais ce lien-là, c'est parce que Mistral a commencé à parler, et d'ailleurs il l'avait dit Arthur Mensch lors de son audition parlementaire. Je conseille encore à tout le monde d'aller la voir si vous ne l'avez pas vu sur YouTube. C'est passionnant. Et il parlait du coût. Hein, parce que ça aussi, au mois d'avril dernier, il y a pas mal d'entreprises qui ont eu une petite surprise quand ils ont vu leur facture arriver.
On voit effectivement... de façon générale, il y a une décorrélation entre le coût des choses et le prix des choses. Ça, on le sait. L'industrie de l'IA et notamment tous les constructeurs de modèles, ils se financent par le capital risque et donc, le prix réel du token ne correspond pas au coût réel du token. Il y a plusieurs signaux sur le marché qui sont arrivés. Le premier signal que j'ai en tête, c'est Brian Catanzaro, qui est VP chez Nvidia et qui dit que les coûts de logiciels, enfin les coûts de token sont plus chers que les coûts des headcounts, le coût des people.
Ouais.
Ça c'est un premier signal qui fait que, enfin qui montre que ça c'est plus quelque chose qui est complètement négligeable. Et c'est quelque chose qui augmente. On pense tous au paradoxe de Jevons. Le paradoxe de Jevons, c'est un paradoxe. Il s'exprime de cette manière. C'est plus une ressource est facile. Plus le coût d'accès à la ressource diminue et plus en fait la consommation de la ressource est élevé. On le voit beaucoup dans le pétrole. Plus les coûts d'extraction de pétrole sont faibles, et plus en fait on consomme du pétrole.
Ouais.
Et donc, avec les tokens, c'est un peu pareil. Plus le coût du token diminue, et bien, en fait plus on le consomme. Et à la fin, Le deuxième signal, c'est le CTO d'Uber. Le CTO d'Uber qui dit « Ah ben zut, en 4 mois, j'ai consommé l'intégralité du budget que j'avais fixé en consommation de token. » Donc voilà,
donc là,
ça correspond à un saut quantique qu'on a eu sur l'évolution des modèles.
Vincent puis Stéphane, Vincent.
Je pense que ce qu'on voit, c'est que le monde de l'IA et des utilisateurs de l'IA redécouvre la gravité. C'est-à-dire que là, on était dans un monde un peu irréel, où il y a des tas de choses gratuites. Bon, on a vu que les choses au forfait sont devenues pas au forfait. Les forfaits
sont réduits. Il a passé de 20 à 200. Voilà.
Donc le coût du token à intelligence constante, il a plutôt baissé, mais la performance a augmenté. Et surtout, les modèles de raisonnement, en fait, multiplient par 5 ou 10 oui. Le coût. Mmh. Par ailleurs, dans le coût, ce qu'on n'a parfois pas en tête, c'est que c'est un coût au token généré. Et ça, c'est l'entreprise qui vous vend les tokens qu'il génère. Est-ce que votre modèle est plus ou moins loquace et donc est-ce que vous payez plus ou moins cher? Ça, c'est à la main de l'entreprise. Donc, ce qu'on voit, et dans le même temps, il y a les modèles chinois qui ont baissé leur prix, d'ailleurs, dans certains cas, je pense, en dessous du coût.
75%.
Donc, on voit l'effet ciseau. D'un côté, on a des utilisateurs qui vont regarder plus parce que ça commence à coûter très cher.
Oui.
De l'autre côté, vous avez des gens qui arrivent déjà pas à gagner de l'argent. Il y a eu une étude du FT qui montre que le ROI attendu des data centers est négatif, des grands data centers, des grands offreurs au prix actuel. Et derrière, vous avez les Chinois en embuscade qui disent « Mais moi, là, je peux vous faire la même chose, 10 fois moins cher.
Oui. »
Donc là, on va voir des choses intéressantes. Et c'est peut-être en septembre, avec l'introduction en bourse de Grok, SpaceX, d'Anthropic et d'OpenAI, qu'on verra un peu comment tout ça se configure.
Ouais, surtout, on rappelle, tiens, pour parler de lever en bourse, c'est Anthropic qui a levé 65 milliards, valorisé aujourd'hui près de 1000 milliards. Donc c'est quand même dingue. Sur ce coup de l'inférence, Stéphane.
Oui, ça rappelle l'importance de la gouvernance dans toutes les initiatives de self-AI, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir en fait des agents qui sont générés par les collaborateurs qui à un moment peuvent être plus chers que le travail du collaborateur.
Ah oui.
Donc il faut s'assurer dans cette gouvernance qui est en fait post cas d'usage qu'on a bien ce ROI qui est là et non pas en fait considéré comme bien arrivé des tous les cas d'usage. Donc il faut vraiment rajouter cette partie là dans la gouvernance.
Et c'est peut-être ça, Eric, qui fait dire aujourd'hui à certains, Arthur Mensch le premier, mais ou d'autres, on dit finalement pour l'instant on voit il y aura peut-être pas autant de suppression d'emplois que ça parce qu'on se rend compte que le l'IA qui va remplacer l'humain tout de suite. Enfin ça c'est une des raisons. Il y en a d'autres, mais
Oui, c'est ça. Et on reviendra probablement tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on veut faire véritablement de l'IA. Ce qui est intéressant, c'est que on a beaucoup discuté de c'est quoi l'impact en termes d'intelligence. Est-ce qu'il y a une intelligence derrière l'intelligence artificielle? Et là, on se rend compte qu'en fait, il y a une facture. Et je voudrais quand même revenir sur la dimension managériale. C'est que jusque-là, on gérait des équipes. Demain, on commence déjà à gérer des agents, des sous-agents, des workflows, mais aussi un coût d'inférence et aussi des mécanismes de supervision. Et donc, toute la question, c'est entre est-ce que mon IA est celle qui est la plus intelligente versus qu'est-ce que chaque décision coûte derrière. Et ce qui est intéressant, je trouve l'anecdote qui est arrivée la semaine dernière où Amazon, pour pousser l'adoption, avait dit « je vais regarder votre consommation de token, peu importe le coût, etc. Mais plus je consomme, plus ça veut dire que j'utilise de l'IA et théoriquement, plus je génère de la valeur. » Et en fait, ce qui est arrivé, c'est un phénomène qu'on appelle le token maxing, qui est de dire, en fait, je lance des IA un peu dans tous les sens pour être dans le bon ranking. Donc, on voit bien que le sujet de l'adoption, il est un peu plus complexe que ça. Il y a une dimension financière, une dimension de comportement et bien évidemment d'usage.
Mais le meilleur exemple, en termes d'usage, c'est poser une question, non pas à un moteur de recherche, mais à un modèle de recherche. Et là, pour le coup, on paye des tokens, alors qu'avant, poser une question à Google, c'était gratuit pour l'entreprise.
Oui. Donc en fait, le moteur de recherche et moteur de réponse.
Ouais, voilà, oui, mais le coût n'est pas le même. Donc en fait, est-ce que l'IT va laisser faire?
Et juste en un mot, en fait, ces choses-là sont assez peu gérées aujourd'hui. Gemini a intelligence à peu près comparable à GPT 5.4 et deux fois moins cher. Donc ce qui va arriver, c'est que on va faire de l'AI Ops, on va regarder les coûts, on va optimiser les prompts pour moins sortir de mots, on va optimiser les modèles et imposer aux utilisateurs le modèle qui a le meilleur rapport qualité-prix. Là où aujourd'hui, on était un peu sur la liberté absolue, soit on avait un choix, puis on restait sur ce choix en attendant.
Ah oui,
mais tu as des techniques là-dessus qui vont arriver aussi de réduction de ces tokens. La plus amusante, moi, je trouve, il y a un GitHub, un repository sur GitHub qui s'appelle Caveman. Et en gros, le principe, c'est que tu demandes à ton LLM de parler comme un homme de Cro-Magnon. C'est-à-dire que tu supprimes les articles, les machins, les trucs comme ça. Tu fais pas des phrases, tu fais juste « moi, faire ceci
».
Plutôt que « tiens, si tu veux, je vais faire cela ». Et ça diminue le nombre de tokens.
Mais c'est assez amusant. Et dans OpenClaw, il y a un truc qui s'appelle Dream, qui en fait compacte ta mémoire comme quand tu dors.
Voilà, alors les techniques de compression de contexte sont des techniques aussi qui vont beaucoup se développer.
Allez, autre sujet, on a eu, j'avais mis Abemus AI PAPAM, parce que voilà, on a un PAPAM qui est un technophile, hein, qui est bon d'origine américaine. Donc, la tech pour lui, ça considère quelque chose. Il a sorti une encyclique, donc ce sont ces lettres d'intention un peu envoyées aux évêques, même avec toute la communauté religieuse. Donc, certains, je crois que Jean-Paul II, c'était sur le social, la jeunesse sociale. Le pape François, c'était sur le développement durable. Et non, là, on a le pape Louis XIV.
Léon XIV.
Heureusement que tu me corriges, qui nous dit là c'est l'IA. Et toi, Vincent, tu dis oui, mais il faut prendre encore plus de recul par rapport à ça. C'est vrai qu'on l'a beaucoup commenté.
C'est un signe de maturité, en fait. Dans toute technologie, on a au début une espèce d'explosion, on fait des tas de choses différentes. Par exemple, l'Internet, au début, c'était évident pour tout le monde que la parole devait être non régulée. Puis on a vu le cyberharcèlement, on a vu Silk Road et toute la vente de trucs illégaux. Et puis on a remis une régulation, on a remis de la morale dans le système.
Ah oui.
Bon, que ça revienne aujourd'hui, c'est une bonne chose. Il y a trois types d'acteurs. Les tech bros, bon, moi je leur ferai pas trop confiance pour la morale. Ils sont bien en technologie.
Les tech bros, c'est-à-dire
les grands patrons de la technologie. Mmh, ils ont pas forcément une formation philosophique très avancée, donc plutôt fait de l'informatique. Ensuite, t'as les décideurs politiques. Eux, hein, ils sont un peu tiraillés parce que par certains côtés, ils veulent apparaître dans le coup, donc ils ont envie quand même d'avancer.
On a vu en France Attal, hein, qui Gabriel Attal, qui met l'IA partout.
Et par d'autre côté, un peu les responsables de faire les règles morales, c'est un peu. Et puis les acteurs moraux. Alors il y a le pape, mais il y en a d'autres. Hein, je pense dans toutes les religions, les philosophes. Ben, eux, c'est un peu leur cœur de métier, donc c'est bien qu'ils s'expriment là-dessus. Alors effectivement, l'anecdote amusante, c'est que en termes de formation scientifique, je pense que le pape, il pourrait donner des leçons à pas mal de personnes. Il était prof de maths. Et peut-être le dernier point, et ça c'est peut-être le plus important, c'est qu'il y a aussi une certaine de désenchantement du monde pour les jeunes. Le climat, le décrochage de la croissance, le chômage des jeunes. Et l'IA s'ajoute à cette pile. Oui. En gros, des gamins qui sont en train de se préparer à leur passion, ils entendent dans les médias des gens qui disent « Votre passion n'existera plus, elle va être détruite. Ouais. » Dans toutes ces histoires-là, on ne voit pas très bien ce qu'il arrive aux perdants, comment on accompagne les gens. Donc moi, j'ai envie de dire à tous les jeunes qui ont passé le bac ou qui attendent les résultats de leur concours, le monde vous appartient et ayez confiance, élisez le pape.
Éric,
effectivement, tu parlais des tech bros ou des techno-optimistes. On a quand même eu beaucoup de discours sur l'accélération, la disruption, l'abondance, l'automatisation. Et là, on voit émerger une forme un peu de contre-récit en disant, finalement, il y a peut-être des choses à regarder d'un point de vue moral, d'un point de vue social. Tu parlais des trois grandes catégories. Il y en a aussi une au niveau des journalistes. Il y a une femme qui s'appelle Karen Aou, par exemple, aux États-Unis, qui a sorti la semaine dernière un site, je vous invite à aller regarder, AI Resist List, qui en fait référencie au niveau mondial toutes les initiatives alternatives et qui peuvent être intéressantes pour trouver un autre mode de gouvernance autour de l'IA. Et enfin, on a Daron Acemoglu, qui est le professeur de MIT et prix Nobel d'économie en 2024, qui dit quoi ? Qui dit en fait qu'il y a un vrai souci aujourd'hui, c'est que on a utilisé l'IA, on a développé l'IA sans forcément se demander qu'est-ce qu'on veut en faire in fine. Et l'IA aujourd'hui est fait pour remplacer, pas forcément pour augmenter. Et quand on regarde les gains d'optimisation qu'on a eu sur les 40 dernières années d'un point de vue technologique, on a eu une surconcentration des richesses, des gains de productivité qui n'étaient pas toujours au rendez-vous et dans les entreprises, une filière managériale qui a été très, très fragilisée. Mmh. Et il n'y a rien qui démontre aujourd'hui qu'avec l'IA telle qu'on l'oriente aujourd'hui, on arrive à avoir des gains complètement différents.
Pour moi, l'encyclique, c'est quelque chose de très, très différent des chartes éthiques qu'on peut voir à droite et à gauche. Et je m'inscris, enfin, je suis pas forcément toujours, j'ai pas exactement la même vision que toi, Vincent, et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est que le problème, c'est pas juste de rajouter de la morale à la science. C'est-à-dire que c'est pas juste de dire, tiens, on a construit quelque chose et, ah zut, on manque de morale, allez, on rajoute de morale. On rajoute de la morale ou de l'éthique. La vision de Léon XIV.
Vas-y.
La vision de Léon XIV, c'est vraiment quelle conception de la personne est inscrite dans les données? Où se trouve la dignité de la personne humaine dans la conception et dans l'identification ou dans l'émergence de l'innovation ou des techniques? Donc c'est véritablement quelque chose qui est extrêmement différent. Il pose tout un tas de questions, notamment sur la concentration du pouvoir. C'est-à-dire que la concentration du pouvoir dans l'IA aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne peut pas se résoudre par des chartes éthiques, en fait. C'est impossible.
Vincent, réponse, et puis non. Stéphane.
Juste, moi, je pense que c'est bien que les autorités morales s'expriment. Je rappellerai la citation de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ».
Oui,
on a l'impression que nos tech bros, ils ont fait de la science sans conscience, et c'est bien qu'il y ait de la conscience qui arrive.
La finalité.
Il faut trouver le bon équilibre derrière.
Du coup, si tu fais ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu fais de la science, et puis derrière, tu dis « Ah zut, j'ai oublié la morale, et je rajoute de la morale ». Il faut bien voir que dans la bouche de Rabelais, c'est une vision extrêmement humaniste et basée sur de la pédagogie. Alors que là, c'est une conception anthropologique et ontologique de l'être humain.
Oui, mais comme il était accompagné de Dario Amodei, ça peut-être un peu faire réfléchir. Tu te rappelles, il était le patron d'Anthropique qui était avec lui, Stéphane.
Je trouve que pour la première fois, on n'a pas une vision apocalyptique de la science. Au contraire, il donne une vision très positive. Il le dit lui-même, n'en ayez pas peur. Mm-hmm. Et en fait, prenez en main, au moment où finalement tout le monde parle du grand remplacement et qui fait peur à tout le monde, il dit au contraire, prenez les choses en main. C'est vous qui allez décider en fait de ce que vous allez faire de l'IA. Et je pense que c'est très positif et ça remet au centre en fait la démocratie en disant finalement vous êtes des citoyens et vous pouvez légiférer sur ce qui va vous arriver. Et je pense que c'est un discours très positif pour le développement de l'IA.
Moi je le voyais comme ça parce qu'en plus il parle de régulation mais sans.
Oui.
Sans dire.
Oui. Et c'est plutôt voir le législatif.
Mm-hmm. Oui, d'un point de vue citoyen, effectivement, c'est très juste ce que tu dis là. Et si je transpose dans l'entreprise, on est quand même beaucoup en ce moment dans un schéma où on dit l'automatisation arrive, adaptez-vous. Et c'est à l'humain de s'adapter sur le sujet. Or, il peut y avoir des chemins alternatifs. Et c'est ce que font les entreprises aujourd'hui. On voit un regain aujourd'hui de cette notion de skills-based organization, où on se dit quelles sont les compétences critiques que je veux garder au niveau humain, quelles sont les compétences qui peuvent être augmentées, et quelles sont les compétences, de façon concertée avec les partenaires sociaux, avec les différents acteurs autour de la table, se dire, OK, ça, elles vont être remplacées, qu'est-ce qu'on fait de ça?
Et c'est encore une vision très centralisée, en fait, cette vision-là, et qui est encore une fois très à l'opposé de la subsidiarité qu'évoque Léon XIV dans son encyclique.
Oui, alors, et là où tu as raison, c'est que je pense qu'effectivement, il y a des choses qu'il va falloir réinventer. C'est le cas dans la démocratie. Quand on voit l'audition d'Arthur Mensch, on se dit, c'est vachement bien qu'il y ait des centaines de milliers de Français qui l'aient regardé. Mm-hmm. C'est pas forcément un problème qu'il y ait aussi peu de députés dans la salle, mais dans ce cas-là, les députés auraient peut-être dû demander aux internautes, est-ce que vous avez des questions que vous posez à votre nom? La définition de la circonscription, elle est basée, en gros, sur la distance qu'on peut faire à cheval en une journée, pendant que nous, on a un système démocratique qui est défini par rapport à une durée de trajet à cheval, les trolls russes prennent les autorités de l'information. Donc, je pense que ça nous dit aussi, c'est qu'on doit réinventer. Et bon, je pense qu'à chacun de choisir ses règles morales, même ses guides morales, hein, ça peut être des journalistes et philosophes. Mais le fait d'avoir effectivement un discours positif, hein, le titre de l'encyclique, c'est Magnifica Humanitas, plutôt positif. Oui. Deux, il y a beaucoup de messages très humanistes. Hein. Il parle par exemple de l'empathie à donner aux migrants, ça n'a rien à voir avec l'IA. Et dernier point, savoir que c'est un sujet important, le traiter et penser au message qu'on donne aux jeunes qui doit être optimiste et qui doit leur donner leur place. Hein. Il y a aussi cette idée de donner sa place à chacun qui est quelque chose d'important qu'on a évoqué plusieurs fois ici. Mm-hmm. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait des guides moraux qui l'expriment et ça mériterait peut-être d'être discuté un peu plus.
Ouais, parce qu'on en parlait, c'était notre précédent décryptage, on parlait à la fois de Sam Altman qui avait reçu des cocktails Molotov sur sa maison et c'était Eric Schmidt qui avait été hué lors d'une grande convention étudiante, je ne sais plus si c'était en Arizona ou... Messieurs, merci. Il y avait encore un sujet, Ernest Agentic AI, je le garde pour la prochaine fois parce que j'en entends de plus en plus parler, donc la maîtrise des agents, on en reparlera. Merci infiniment à tous les quatre, hein, Emmanuel Vignon, vice-président d'ingénierie et head of IA chez Generix, Vincent Champin, président de l'Observatoire du long terme et patron du digital chez Framatome, Eric Campanini, associé à Alexio Group, et Stéphane Roder, président des AI Builders. Merci messieurs, c'était passionnant encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM Business.
Tech & Co Business sur BFM Business.